Romain Duris, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédien. Pour le Parisien Magazine, vous êtes le meilleur acteur de votre génération. Et le magazine, elle, écrit « Les Espagnols ont Javier Bardem, les Américains ont Joaquin Phoenix, nous, on a Romain Duris. Les journalistes sont tout amoureux de vous. »
Bah non.
C'est objectif.
c'est des formules.
J'aime votre modestie. Je vais pas citer toute votre filmographie. Je vais citer seulement 4 films. Le Péril Jeune en 95. L'Auberge Espagnole en 2002, toujours sous la direction de Clapiche. De battre mon cœur s'est arrêté. C'était le film de Jacques Audiard en 2005. Et enfin, votre plus gros succès commercial, c'est L'Arnaqueur. En 2010, presque 4 millions d'entrées au box-office. Et là, vous êtes à l'affiche de Cessez-le-feu. C'est un film d'Emmanuel Courcol. Vous incarnez Georges, qui est un vétéran de la Première Guerre mondiale, qui retourne dans sa ville natale après avoir passé 5 ans en Afrique. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire, à deux faces?
Bah, ce parcours de personnages qui traverse la guerre de 14-18, pour les témoignages que j'ai lus ou les livres, c'est quand même une période hallucinante.
L'autre chose que vous avez dite, c'est que ce qui vous a plu dans le rôle de Georges, donc votre héros, qui vous incarnez, c'est son côté viril.
Ouais, tout à fait.
Fallait Pourquoi trouver.
Bah, parce que c'est un commandant. On a pu imaginer, du coup, qu'il a donné des ordres pendant 4-5 ans, dans ses tranchées, puis même à l'arrière. Évidemment, il a une autorité naturelle, il a une façon de se comporter. Et on le voit bien d'ailleurs, déjà à l'époque, ils ont un peu plus le buste en avant, ils se tiennent un peu plus droit. Mais quand on est commandant de l'armée, encore plus. Donc du coup, il y a une espèce d'autorité et de respect.
C'est vous qui l'avez raconté, vous aviez un coach sur ce film?
Le même que pour le film de François Ozon, quand j'ai dû travailler une femme.
C'est ça, vous aviez un coach pour la féminité, et là vous aviez un coach pour la virilité?
C'est la même, c'est de la danse, c'est une chorégraphe. Et c'est parce que c'est le même travail. C'est de la danse, hein. Donc, comment marcher, comment décrire une démarche, comment imaginer une démarche ancrée dans la terre d'un commandant qui a dû, voilà, marcher dans les tranchées, donner des ordres, gueuler, mais pas en force, gueuler parce que c'est son quotidien, et se faire entendre. Et ça, forcément, ça fait des démarches qui sont pas la mienne, qui suis un Parisien qui est en scooter.
Et même votre démarche a changé. Comment vous avez travaillé votre démarche?
J'ai mis des poids de 1 kilo à chaque pied pour m'entraîner beaucoup. Et je les ai même gardés avec moi.
Comment ça? Non, pas sur vous.
Si, dans des séquences. Parce que j'avais des pantalons larges.
Ouais.
Donc ça permettait de cacher les poids. Et j'en avais tellement besoin que je les gardais même en Afrique. Quand le personnage va vivre en Afrique après la guerre, il part 4-5 ans en Afrique pour essayer de trouver un peu du calme.
Ouais.
Bah là, même quand je gravitais les montagnes et que j'allais au sommet, j'avais ces poids de 1 kilo parce que j'avais besoin de sentir mes chaussures qui étaient déjà grosses, les chaussures de l'armée, qui tapaient le sol, quoi. Ça me ramenait au quotidien de ce personnage imaginé, hein.
Et alors justement, ce que vous parlez de l'Afrique, quand il est en Afrique, ça commence par toute une partie où il est en Haute-Volta, pays disparu. En tant que spectateur, évidemment, au début, le film est mystérieux et on se demande ce qu'il fait là. Et lui-même, on a l'impression que parfois, il se demande ce qu'il fait là. Donc ça va être ma question. Pourquoi il est parti en Afrique au lieu de rester en France comme tout le monde?
Ouais, parce qu'il voulait fuir, je pense. Il voulait fuir, sentir des reproches. C'était très violent, apparemment, hein, ce que j'ai lu, moi, dans les témoignages, encore une fois, des personnes qui rentraient de la guerre. C'est qu'après, quand ils faisaient la queue à la boulangerie, les gens les repoussaient et on voulait pas les voir. Le quotidien de l'après-guerre, on voulait effacer les 4 années qui venaient de se passer.
Même les
et
valides.
Les pauvres gars qui venaient de se battre, ouais, même les valides.
Moi, je croyais que c'était les gueules cassées qui...
Moi, je pensais que c'était des héros, mais dans ce que j'ai lu, des descriptions de l'époque, les mecs, on voulait de pas les voir, quoi. Parce que ça nous ramenait à la guerre, ça nous ramenait à ces années qui était effroyable, ce qu'on avait perdu. Donc chaque personne qui faisait la queue à la boulangerie voulait effacer ce pauvre gars là qui était là, qui venait de se battre pour eux, et on voulait l'éviter et ne pas le voir. C'est quand même hallucinant, quoi.
Alors,
et donc je pense que le personnage a fui ça et a essayé surtout de pas avoir. Bon, là après dans sa famille il y a du reproche parce qu'il y a un petit frère qui a disparu, c'est aussi dans l'histoire, donc il voulait peut-être pas aussi ressentir ça.
Et son autre frère qui est là,
qui est muet, qui a lui le traumatisme. Qui est vraiment visible en lui parce que lui il a perdu la parole carrément. Donc je pense que voilà, c'est une fuite et c'est essayer de trouver un peu de calme, quoi, après cette tranchée.
Ça s'appelle Cessez-le-feu. Romain Duris est avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure. Romain Duris avec nous, comédien qui est à l'affiche de Cessez-le-feu. Et également, vous êtes à l'affiche du film de Nicolas Boukrieff qui s'appelle Confession. C'est un peu une sorte de revisitation de Léon Morin prêtre. Comment vous avez travaillé votre rôle? Parce que je voyais pas en prêtre, moi, pour tout vous dire.
Moi non plus, mais j'avais envie de jouer ça, parce que les prêtres, ils sont habités, forcément. C'est ce qu'ils disent, ils sont jamais seuls, hein. Il y a Dieu qui est avec eux. Et quand je suis acteur, moi, c'est un peu ce que je recherche. C'est des personnages qui sont habités par quelque chose. Ça peut être ce qu'on veut. Mais le pire, c'est le vide. C'est quand il n'y a rien. Là, le prêtre, c'est magique, parce qu'on peut, s'élever comme on veut. Hein.
Vous êtes vraiment allé faire une retraite de 10 jours?
J'ai fait une retraite de 10 jours, que je conseille à tout le monde. C'est très agréable de se retrouver un peu seul et un peu dans ses pensées. Et puis,
vous étiez où?
J'étais à l'abbaye de Lérins, qui est un abbaye qui est en face du Festival de Cannes. C'est marrant, quand même.
Ah oui, dis donc.
C'est sur une île qui est en face.
Mais c'était à quel moment? Parce que si vous ne me dites pas que c'était entre le 4 et le 20 mai.
Non, pendant le festival. C'était pas avant le festival, ça va, c'était plus calme. Non, mais ça fait beaucoup de bien, je veux dire, c'est pas forcément chez les catholiques, enfin la religion après, chacun l'aperçoit comme il veut, mais de se faire une retraite personnelle et de faire rentrer un peu de spirituel, c'est agréable, c'est important.
Je veux dire, pourquoi je vous demande ça? Il paraît qu'un jour, à 13 ans, vous êtes retrouvé en haut d'une montagne et vous êtes mis à croire en Dieu. C'est de la légende ou
non,
c'est vrai?
Non, c'est pas croire en Dieu, c'est que parfois... C'est comme un enfant qui regarde les étoiles, à des moments... C'est un peu ce que j'appelle donner accès à la spiritualité, c'est ça, c'est d'un coup d'observer des choses et de voyager un peu, et de s'élever un peu et de se dire, tiens, pourquoi tout ça c'est là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même qui a organisé tout ça? Après, on croit pas, mais...
Au départ, vous ne vous destiniez pas à devenir comédien, mais peintre. Alors, suivant les articles que je lis sur vous, vous avez arrêté de peindre, vous avez repris, vous avez arrêté, vous avez repris, vous peignez en ce moment, vous peignez pas?
Non, là, je suis en tournage, je peins pas, mais c'est un peu ça, c'est un peu du coup, c'est parfois frustrant parce qu'on redécouvre le rythme en faisant, mais du coup, je pars sur un tournage. Mais j'ai le désir et je le projet de faire un livre avec une sélection des dessins que je fais depuis un moment déjà et qui sortira en septembre, voilà.
Ouais. Wow. Et moi, j'ai lu qu'il y avait une expo.
Oui, parce que qui dit livre dit événement et donc dit expo. Et voilà. Donc,
et vous dessinez quoi?
J'avais pas pensé à ça, mais il y aura une expo. Ouais.
Et vous dessinez quoi?
Je dessine, c'est très figuratif, c'est des bons hommes, des bonnes femmes qui font l'amour, dans des paysages différents. Je pense que c'est assez drôle.
Ah bon? Voilà. C'est drôle quand on fait l'amour?
En tout cas, quand je dessine, je pense qu'il y a un côté assez drôle. C'est pas pornographique, il y a un peu de l'humour.
Ouais. Non, ce qu'on dit, le rire est l'ennemi de la volupté.
Chacun sa corde, on est en 2017.
Alors, autre chose que j'ai peine à croire, parce que je ne savais pas ça avant que je prépare cet entretien, vous n'avez jamais pris aucun cours de comédie, aucun cours de théâtre?
Non, j'ai toujours eu peur des cours. Ouais.
Mais comment vous avez réussi à acquérir votre métier?
J'ai eu la chance de tomber sur les réalisateurs avec lesquels j'ai fait des films.
Ouais, mais c'est pas des profs, c'est des réals.
Non, mais j'ai profité de ces moments pour m'enrichir le plus vite possible de ce que je pouvais, de trouver des espèces de techniques, tout ça, mais... Moi j'ai toujours été un peu allergique au côté scolaire des choses.
Vous avez raconté que le regard de vos copains, de vos potes sur votre premier film, Le Péril Jeune, était violent.
C'est clair qu'on était un petit groupe de personnes, et nous ce qu'on aimait c'était le cinéma plutôt américain, japonais, des films surtout des années 50-60, ou La Nouvelle Vague, bref. Donc au moment où j'ai fait Le Péril Jeune, c'est-à-dire quand j'avais 18-19 ans, on n'allait pas trop voir les films français, ce qui se faisait, on n'aimait pas. Donc moi, quand j'ai mis un pied là-dedans, c'est pas que d'un coup j'ai découvert que j'aimais le cinéma français. Je me suis très bien senti avec Cédric Clapiche. J'ai adoré ce film parce que c'était un moment très humain et très fort. Mais après, c'est vrai que mes potes, eux, sont restés dans cette dynamique de « le cinéma français, ça fait chier ».
Romain Duris avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Le comédien Romain Duris avec nous, je vais le faire en 6 films. Le Péril Jeune, L'Auberge Espagnole, De battre mon cœur s'est arrêté, L'Arnaqueur, Cessez le feu. Et on peut aussi vous voir dans Confession, le film de Nicolas Boukrieff. Est-il vrai que vous ne lisez jamais les articles qui vous sont consacrés?
Ça m'arrive de tomber dessus.
Et vous faites quoi?
Soit je ris, soit je pleure, quoi.
Non mais vous pouvez le vite changer la page. Si vous tombez sur un article chez le dentiste, hop, vous aimez pas vous lire, vous aimez pas vous voir et vous tournez le...
Non mais ça m'intéresse quand même de regarder votre travail, donc je lis. Bon, parfois j'hallucine.
Ah oui, par exemple?
Parfois je trouve ça très mal écrit, j'avoue.
Ah oui, et les interviews, vous dites pas « waouh, j'ai raconté ça, j'aurais pas dû » ou l'inverse?
Non, il s'agit pas de moi, c'est pas moi le problème.
Est-il vrai que vous étiez renvoyé de votre lycée, quand vous étiez au lycée évidemment, à cause de la manière dont vous étiez habillé?
Ah oui, c'était un moment où on se posait des questions de savoir qu'est-ce qu'on allait permettre ou pas. Bon, moi...
Mais c'était dans les années quoi, 80? Il y avait une grande liberté à l'époque, j'étais vraiment
étonné
d'apprendre ça.
Ouais, mais j'étais quand même très libre dans ma façon de m'habiller.
Ah bon, vous étiez habillé comment?
J'avais une énorme salopette avec des peintures, des pochoirs dessus, avec plusieurs couleurs. J'avais les cheveux en l'air. Voilà, c'était une image. Et je pense que je regardais tous les jours le proviseur qui nous regardait rentrer. Et tous les jours, je regardais sa tête, je me disais, tiens... Ça passe encore, mais je pense qu'il se pose des questions sur jusqu'où il va permettre quand même le travestissement. C'était une espèce de travestissement, je sais pas, costume, quoi.
Est-il vrai que vous avez été livreur de pizza?
Non, j'ai même pas été retenu.
C'est pas vrai.
J'ai même pas eu de réponse, je crois. J'ai fait tout un dossier pour être livreur de pizza cet été-là, le fameux où on m'a casté pour faire le Péril Jeune. Donc j'étais un peu déçu au moment où il m'a dit que ça marchait, le Péril Jeune, parce que d'un coup, j'avais pas fini, si vous voulez, le dossier avec le pizza. Donc je voulais juste savoir si j'allais être retenu ou pas, et j'ai jamais eu de réponse.
Alors tiens, la légende du casting, votre premier rôle dans le Péril Jeune, vous étiez vraiment devant le lycée, en train d'attendre votre petite amie de l'époque?
Oui, ça c'est vrai. Oui.
Alors ensuite, la légende continue, il paraît que vous refusez de passer le casting. Et que vous dites au gars qui vient, fais-moi lire le scénario d'abord. Voilà. C'est vrai ou pas?
Ça, c'est vrai. Oui, bah, c'était pas la première fois qu'on m'arrête, parce que comme j'avais donc cette dégaine un peu très colorée, c'est pas la première fois qu'on m'arrêtait dans la rue, dans Paris. Il y a eu beaucoup de castings sauvages comme ça. Ça, c'était très à la mode, hein, de faire des castings sauvages, de repérer des jeunes qui avaient des gueules un peu pour des pubs, pour des films. Pour les... Et donc, voilà, cette fois-ci, c'était une autre fois et j'avais dit non, mais moi, ok, à la rigueur, mais moi, il faut que je lise le scénario.
Mais vous pensez bien que les
gars... Espèce d'arrogance qui avait dû plaire pour le personnage. Hein.
Est-il vrai, Romain Duris, que vous avez failli mourir sur le tournage d'un film au Kazakhstan alors que vous rouliez sans papier?
En Ouzbékistan. C'est à côté de l'Afghanistan, bref, il y a parfois des trafics. Et il y a à chaque fois des contrôles de police tous les 5 km. Et un soir, on est tombé, c'était avec Mélévie Poupeau, Charles Demeaux et Caroline Ducey. On faisait ce film un peu expérimental qui s'appelle Shimken Totel. Et un soir, on s'arrête tard dans un poste et le gars est un peu éméché et nous dit, il n'a pas le droit de conduire la voiture, on va vous fusiller. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'est traduit par notre charmante interprète. Et bon, c'est un peu arrêté, j'ai regardé Melville qui était dans la voiture, j'ai tenté un sourire, je crois, en disant, mais c'est une mauvaise blague ou quoi, puis ça avait l'air sérieux, puis après, il m'a racheté. En fait, le réalisateur m'a racheté, lui a donné un bifton.
Vous avez racheté quel prix? Vous vouliez combien à l'époque?
100 $. Il m'a racheté 100 $.
Autre histoire, sur le tournage de Gadjo Dilo, vous êtes vraiment tombé amoureux d'une femme qui était mariée, que son mari battait?
Ça, c'est très personnel.
Ah, dis donc.
Mais disons que je suis tombé amoureux d'une...
Non, mais pareil, vous avez failli, que ça a failli faire un drame. C'est même le réalisateur qui l'a raconté. Vous voulez la ramener à Paris?
Ah ouais, s'il le dit, bon, bah alors.
Okay. Ah, c'est lui qui l'a raconté. Mais c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Et du coup, il m'a empêché de retourner dans le village après le tournage parce que c'était dangereux. Et on est parti, du coup, en Turquie avec lui, avec le réalisateur, pour se calmer un peu. Tous les deux. Lui, pour d'autres raisons, et moi, pour cette raison de cœur, je suis allé en Turquie, à Istanbul. On s'est calmé 5-6 jours comme ça, à deux. C'était beau.
Et le mari vous cherche encore?
Je sais pas. Je sais pas.
Pas qu'il arrive maintenant. Est-il vrai que vous êtes capable d'imiter Robocop?
Ouais, je l'étais. J'aimais beaucoup imiter Robocop. Ouais.
Mais ça se fait, on imite comment Robocop? C'est la démarche ou c'est le son?
Les deux.
C'est comment le son?
Tout comme ça.
Merci beaucoup, Romain Duris, d'être venu nous voir.
Merci à vous.